Eh bien, nous sommes sur Fréquence Protestante en compagnie de Pierre Veltz. Pierre Veltz, bonjour monsieur.
Bonjour.
Alors, vous êtes ingénieur, XPON, vous êtes économiste, vous enseignez à l'École nationale des ponts et chaussées et à Sciences Po. Vous êtes également directeur de l'IEDAT, qui est l'Institut des hautes études de développement et d'aménagement des territoires européens. Et ça tombe bien parce que le mot territoire est au cœur de l'entretien que nous allons avoir avec vous. Les mots de changement, d'adaptation, de réforme sont des leitmotifs permanents de nos jours. Non seulement d'ailleurs dans la bouche des hommes politiques, mais également dans celle des experts et des économistes qui analysent l'évolution du monde. Mais ce sont des mots qu'il est parfois extrêmement difficile de rendre concrets pour le grand public. Il y a bien sûr les théories, les analyses, mais comment elles s'enracinent dans le territoire? On connaît les délocalisations et très souvent c'est par les délocalisations que l'on voit la mondialisation sur le terrain. Mais justement, Pierre Veltz, vous qui connaissez les territoires, vous venez de publier un livre intitulé « La grande transition » qui est paru aux éditions du Seuil, où vous analysez en détail ce que veut dire la mondialisation pour les territoires, quels sont les défis et quels sont peut-être, parce que vous lancez des pistes pour relever ces défis.
Oui, alors effectivement, on a souvent une approche très macro, nationale des problèmes. On dit la place de la France dans la mondialisation. D'ailleurs, la plupart des statistiques, le commerce extérieur, c'est toujours des statistiques nationales. En réalité, quand on regarde les choses d'un peu plus près, on s'aperçoit que la France n'est pas une espèce de plaque homogène quoi, dans la mondialisation. On voit bien qu'il y a des régions qui sont plus touchées que d'autres par les questions de concurrence. On voit que il faut un peu sortir de cette image homogénéisante des territoires. D'ailleurs, je voyais récemment un article sur la situation aux États-Unis. Et la façon dont on parle maintenant d'une crise aux États-Unis, en fait, la situation est extrêmement différenciée selon les régions aux États-Unis. Et il faut, je pense d'ailleurs que d'une certaine façon, la mondialisation contribue aussi à cette différenciation des territoires. Elle s'appuie sur cette différenciation, mais elle l'a, d'une certaine façon, elle peut aussi la renforcer. Vous voyez bien, ce qui se passe à Toul, par exemple, n'est pas la même chose que ce qui se passe à Bordeaux ou ce qui se passe à Paris. Donc,
oui, mais alors, c'est peut-être là quelque chose de surprenant, parce qu'on a plutôt tendance à croire que la mondialisation va uniformiser. Il faut partout avoir les mêmes types de rendements, d'organisation, dans la compétitivité. Et on en parle alors au niveau des mœurs et de la société, mais il n'y a pas aussi un risque d'uniformisation des territoires?
Alors, on voit qu'il y a des choses effectivement qui s'uniformisent. Hein. Les centres-villes que vous fréquentez, vous avez les mêmes boutiques, les mêmes enseignes un peu partout. D'ailleurs, c'est un peu lassant et c'est vrai, ça devient de plus en plus vrai aussi à l'échelle même internationale. Ça, c'est un aspect des choses. En même temps, je crois qu'il y a quand même aussi des différenciations qui restent très très fortes, et en particulier parce que les territoires ne sont pas du tout touchés de la même façon, ne réagissent pas de la même façon, et que le territoire est un acteur aussi dans la mondialisation. C'est là que je me différencie sans m'opposer, d'ailleurs, à certains de mes collègues économistes qui... Où moi, je suis d'ailleurs économiste, géographe, sociologue, je ne sais pas trop, qui, au fond, vous parle de l'évolution de la France dans la mondialisation de manière très, très globale, alors qu'on sait bien que notre pays, comme les autres pays européens, comme tous les pays du monde, enfin, en tout cas, d'une certaine taille, est un pays qui est extrêmement divers. Le Midi de la France est encore aujourd'hui une région ou un ensemble de régions dans lesquelles l'industrie, par exemple, est extrêmement peu présente. On a tout un passé, un background historique d'enracinement, etc., qui n'est pas du tout annulé par la mondialisation. Inversement, mais on y reviendra peut-être plus tard dans cet entretien, je crois que les territoires ne sont pas seulement touchés de manière différentielle, ce territoire, cette territorialité est aussi une ressource hein, pour survivre et prospérer dans la mondialisation. C'est ça, j'insiste beaucoup sur ce volet-là.
Mais alors, Pierre Vels, on voit très bien que vous partez de l'idée que le territoire est pertinent pour s'insérer dans la mondialisation. Mais de quel territoire s'agit-il ? Parce que quand on parle de territoire, ça peut être à l'échelle d'un pays, ça peut être même... Quand on parle de région, très souvent, on ne pense pas à des régions, à nos régions françaises, mais à des grandes régions européennes. Le territoire, ça veut dire quoi ?
Oui, si on prend par exemple la période de la France des Trente Glorieuses, on voit qu'il y a une période de changement remarquable sur beaucoup de plans, la croissance, la transformation des modes de vie, le développement de l'emploi féminin, etc. Bon, c'est une grande période de mutation. On voit que la géographie a été très importante dans la façon dont ça s'est fait en France. Prenez de ces régions très rurales qui... la Bretagne, la Normandie, les Pays de Loire, etc. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y avait une main-d'œuvre essentiellement agricole, artisanale, etc. L'agriculture a fait des gains de productivité absolument extraordinaires, donc ça a dégagé beaucoup de bras, hein, des jeunes hommes, des jeunes femmes qui sont. Et l'industrie est allée vers eux. Contrairement à ce qui s'est passé en Italie, où on a fait venir les gens du Sud pour aller travailler dans l'industrie. En France, grâce à ça, grâce à cette géographie très particulière, eh bien finalement, l'industrie, ces régions se sont industrialisées, hein, ce qu'on appelait parfois la décentralisation. Mais Paris est resté en même temps le pôle de commandement de l'industrie. Et ça a été très important parce qu'au fond, il y a eu une continuité complète. À la fois en termes de qualification, en termes de géographie, les gens qui sont passés en fait du monde rural traditionnel au monde industriel sans bouger géographiquement. Ça a été très structurant ça pour la France. Le problème c'est qu'aujourd'hui on n'est plus dans cette situation là, hein, que l'écart à la fois de qualification et géographique entre les nouveaux métiers qui apparaissent et les anciens métiers. Il est plus important. Donc voilà, c'est ça une de mes idées, c'est de dire la géographie compte énormément. C'est pas seulement le résultat, c'est aussi un acteur des changements. Et là, vous voyez qu'on peut prendre le territoire à différentes échelles. On peut parler de la ville de Caen, on peut parler de la ville d'Argentan, on peut parler de la basse Normandie globalement, on peut parler de l'ouest de la France. Il y a des logiques un peu modulées selon les échelles, mais en l'occurrence, c'était les mêmes logiques. Aujourd'hui, c'est moins sûr d'ailleurs.
Au passage, Pierre Vels, je remarque que votre analyse des Trente Glorieuses me fait penser au fait qu'il y a une conjonction entre cette période, d'ailleurs, bon, d'exode rural, d'industrialisation de la France, et le baby-boom. Et que finalement, c'est la génération du baby-boom qui a porté un modèle économique, et c'est peut-être la nouvelle génération qui va permettre les territoires qui vont devoir agir maintenant. Alors, ces territoires dans la mondialisation... ils sont d'abord dans un paradoxe, parce qu'une des caractéristiques majeures de la mondialisation, c'est d'atténuer ou d'abolir les distances par les nouvelles technologies, par les transports. Or, le territoire, c'est justement la proximité, c'est le fait que les choses sont consommées, sont faites, sont pensées sur place. Alors, cette contradiction, comment les territoires... peuvent l'affronter dans la mondialisation.
Oui, alors là, vous mettez le doigt sur, au fond, le grand paradoxe de la situation que nous vivons aujourd'hui, hein, et qu'il y a vraiment deux phases très différentes. La première phase, c'est précisément celle d'une fragmentation extraordinaire et qui est en train de s'accentuer de très, très rapidement aujourd'hui, des fragmentations des systèmes productifs. Aujourd'hui, on ne peut plus dire tel secteur est localisé dans tel endroit ou telle entreprise. Les entreprises sont de plus... En fait, les économistes parlent plutôt de chaînes de valeur, d'un ensemble d'activités enchaînées. Ces activités sont aujourd'hui extraordinairement fragmentées. Hein. Pour être plus concret, avant, des opérations comme la comptabilité, tout ça, ça se faisait au siège de l'entreprise. Aujourd'hui, ou les services après-vente. Hein. Aujourd'hui, c'est des call centers ou des centres d'appel qu'on va mettre un peu n'importe où en France, puis après, on va les mettre au Maroc, et puis le jour où c'est trop cher au Maroc, on les mettra au Sénégal, et les centres d'appel en Inde, heureusement, on parle pas anglais, sinon ça ira encore plus loin, ils peuvent aller aux Philippines, ça n'a aucune importance, on garde les fuseaux horaires, mais les systèmes sont extraordinairement fragmentés. Hein. Je crois que dans mon livre, je prends l'exemple d'une brosse à dents, pour fabriquer cette brosse à dents, il faut, je crois, de mémoire, une dizaine de sites industriels différents, 38 000 km parcourus. Pourquoi ça? Parce que, au fond, les obstacles économiques et juridiques aux échanges ont diminué. Le coût des transports ont été très, très fortement diminué aussi, notamment le transport maritime. Hein, c'est comme si les océans aujourd'hui n'existaient plus en termes de coûts. Ce qui reste cher, c'est le transport terrestre, surtout dans ces phases terminales, quand on se rapproche des clients, qu'il faut utiliser des petits camions et pas des gros trains. Et puis les coûts de transport de l'information, comme vous le savez, sont nuls aujourd'hui. Hein. Ça coûte absolument rien de traiter un dossier informatique à l'autre bout de la planète. Le téléphone va être gratuit partout, etc. Donc c'est un changement fantastique. Il y a qui donne aux entreprises des marges de manœuvre considérables pour réorganiser, fragmenter. Moi j'appelle ça aussi le dégroupage. On dégroupe tout. Et en même temps, alors ça c'est le premier volet de l'histoire. Mais quand on a dit ça, justement, on a raconté qu'une des phases de l'histoire, parce que l'autre volet, c'est ça le paradoxe, c'est qu'en même temps, on nécessite des processus de polarisation, de regroupement extrêmement forts des activités, comme si des pelotes se formaient, vous voyez, à l'intérieur de ces réseaux. Hein. Il y a des endroits où les réseaux prennent en masse, où il y a des nœuds qui se forment. Et au fond, mais la différence, c'est que ces nœuds, ces agglomérations... ce sont des nœuds de réseau, ce ne sont pas des choses... Vous voyez, aujourd'hui, une ville, une agglomération, c'est un endroit où des réseaux se croisent, s'articulent les uns avec les autres. Ce n'est pas un endroit isolé qui fonctionne avec le reste du monde. Alors la question que vous allez peut-être me poser, c'est pourquoi on a ce phénomène d'agglomération? Alors pourquoi on a ce phénomène d'agglomération? Quel besoin? Eh bien, tout simplement parce que au fond, le paradoxe, c'est que plus les relations sont fluides, plus ça permet aux avantages de l'agglomération de s'exprimer. Depuis très longtemps, par exemple, quand le chemin de fer s'est développé au 19e siècle, les gens ont dit, oh, ben, ça, c'est formidable, les industriels en particulier, ont dit, c'est la fin des villes. Les villes, c'est très... Les industriels ont toujours détesté les villes. Vous savez, c'est le lieu de... C'est Babylone, c'est les syndicats, enfin, c'est le bistrot, la débauche, enfin, tout. Les villes, c'est très mauvais. Les industriels ont toujours rêvé d'être à la campagne. Ils ont dit, avec le chemin de fer, il n'y a pas de problème. On a maintenant des communications faciles. Qu'est-ce qu'a produit le chemin de fer? Exactement l'inverse. Le chemin de fer a produit une vague de concentration formidable. Prenez les États-Unis qui sont une espèce au fond de terrain d'expérience. C'est un laboratoire de la géographie puisque ils étaient moins structurés historiquement que nos vieux pays européens. Le train, ça a produit Chicago, ça a produit les grandes métropoles américaines avec donc une concentration extrêmement forte. Aujourd'hui, avec l'Internet et tout ça, il n'y a pas de raison que ce soit différent. Pourquoi? Parce que les agglomérations, et les territoires de manière générale, elles apportent des choses que les réseaux ne peuvent pas apporter. Donc c'est cette complémentarité, cette dualité, je crois que si on veut comprendre le monde, il y a cette dualité entre des réseaux de plus en plus étendus, ce que j'appelle d'un terme un peu barbare la connectivité, pour dire on est plus facilement, et chacun le vit aujourd'hui dans sa vie quotidienne, avec le mail, etc., on est en connexion avec tout le reste du monde, mais ça n'annule pas, au contraire, l'intérêt de se grouper. Alors on pourrait développer pourquoi c'est intéressant de se grouper, mais on ne va pas...
Oui, mais justement, Pierre Vels, vous développez un peu ça dans votre livre et c'est tout à fait passionnant. Vous analysez ce qu'on appelle, on a l'habitude de parler d'une économie de la connaissance, mais vous allez un peu plus loin dans ce qu'est la connaissance et vous revenez à une vieille formule d'un économiste anglais, je crois, qui disait « le secret de l'industrie est dans l'air ». C'est des choses qui ne sont pas quantifiables, mais qui fait que quand les gens sont des sachants, sont regroupés, savent et tout, les choses vont plus vite. Ce n'est pas la somme des savoirs, ça se multiplie.
Oui, alors prenons, on peut prendre effectivement, disons un peu les secteurs émergents, la high-tech, etc. Hein, tout le monde sait que, au fond, justement, c'est les secteurs qui produisent l'informatique, donc a priori qui pourraient être les plus délocalisés, sont justement les nœuds de réseau sont extrêmement localisés. Il y a des endroits où ça se passe et où il faut être et des endroits où on n'est pas branché. C'est ça, c'est très paradoxal. La Silicon Valley, c'est quand même un centre mondial. D'ailleurs, vous voyez, les gens du monde entier vont là-bas. Pourquoi ils vont là-bas? Parce que On a beau être parfaitement connecté 24 heures sur 24 par les réseaux, c'est quand même là que ça se passe. Là que ça se passe, ça veut dire que c'est là qu'on trouve les collègues, c'est là qu'on discute des choses. Bon, on a souvent parlé de l'effet cafétéria, c'est un peu une image, un peu... Bon, c'est pas comme ça vraiment, je résiste un peu à cette simplification. Hein. Mais c'est aussi là que vous allez avoir, par exemple, du capital, ce qu'on appelle le capital risque, c'est-à-dire des investisseurs qui sont prêts à mettre de l'argent en prenant des risques importants, ils gagnent une fois sur cinq, mais dans ces cas-là, ils font un Google qui marche pour 20 qui échouent. Et vous voyez que ça, c'est vrai que ça marche de manière très territorialisée. Mais en même temps, quand on regarde les choses, la Silicon Valley n'est pas toute seule. Il y a la Silicon Valley et tout un archipel, comme ça, vous voyez, j'ai utilisé cette métaphore dans un autre livre, tout un archipel d'activités qui sont en fait étroitement connectées. Le développement de la langue anglaise, l'immigration aux États-Unis a beaucoup joué, mais si on regarde le développement de Taïwan, par exemple, c'est très largement connecté avec ce qui s'est passé à la Silicon Valley. Mais c'est localisé, c'est pas diffus n'importe où.
Je reviens sur la distance et la réduction fantastique au cours du temps du coût de la distance. Est-ce qu'il n'y a pas là, et là, alors c'est un mot que vous aimez beaucoup, Pierre Wels, incertitude. On est maintenant dans une nouvelle donne avec le réchauffement climatique et le prix du pétrole. C'est-à-dire que les distances vont redevenir peut-être plus chères et plus, on va y regarder à deux fois avant de faire des cargos remplis de marchandises qui sillonnent les mers du monde.
Oui, alors ça, vous abordez un sujet sur lequel, malheureusement et curieusement, on n'a pas vraiment j'ai cherché ça, pas trouvé de prospective un peu globale de l'évolution du système de transport dans le monde, hein, ce qu'on appelle aussi la logistique, c'est-à-dire toute cette fond colonne vertébrale de moyens de transport, de ports. Les ports sont très importants, évidemment, de plus en plus, d'aéroports, de... Voilà. Est-ce qu'on va revenir, certains disent, on va revenir à un monde avec l'énergie chère, avec les contraintes du réchauffement climatique, etc. On va revenir à un monde des courtes distances, des circuits courts. Par exemple, vous voyez, au lieu d'acheter des tomates qui viennent du Maroc ou d'Afrique du Sud, je ne sais où, on va racheter des tomates des maraîchers, sauf qu'on les aura qu'à la saison des tomates, hein, et qu'on est habitué maintenant à avoir des tomates à d'autres saisons, donc ce ne sera pas facile. Moi, je crois que les choses sont plus compliquées que ça. En particulier, le transport maritime. Vous savez, le transport maritime, c'est un domaine où les économies d'échelle jouent à fond, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait des bateaux avec 10 000 boîtes, une boîte c'est un conteneur, c'est l'équivalent d'un camion, hein, d'un remorque qu'on met dans un semi-remorque. Donc vous voyez ce que ça fait, 10 000 camions. Vous remplissez, vous mettez des t-shirts là-dedans, vous tenez compte du fait qu'un bateau, ça, on sait ça depuis l'Antiquité, ça consomme quand même moins d'énergie pour se déplacer sur l'eau que pour se déplacer par voie de terre. C'est plat, enfin bon, voilà, il y a beaucoup de raisons. Et au total, vous savez, rapporté au coût du t-shirt, même avec un dollar à 500 dollars, avec un baril de pétrole à 500 dollars, ça restera encore très peu cher. Donc je crois, et personnellement je pense que c'est plutôt une bonne chose, que les relations maritimes entre les grandes zones du monde vont continuer. Parce qu'au fond, écologiquement et énergétiquement, ce n'est pas un problème. Bon, ça peut être un problème, mais... Alors par contre, il y a beaucoup d'autres absurdités. En particulier, le transport aérien, qui est aujourd'hui très, très développé, quelquefois, je pense qu'on va être amené à être quand même plus raisonnable, plus sage là-dessus. Mais je ne crois pas du tout au retour à un monde des circuits courts, comme le pronostic et parfois le rêve aussi, certains écologistes. Ça, le monde des circuits courts, c'est bien, c'est sympathique, mais la mondialisation, c'est quand même formidable en ce sens que ça met en connexion des mondes ça ouvre fantastiquement aussi le champ des opportunités. Ça ouvre le champ des menaces, ça ouvre aussi le champ des opportunités.
D'ailleurs, on sait qu'une grande partie de ceux qui font la mondialisation passent une grande partie de leur temps dans les avions. Ils en ont besoin. J'entendais dire récemment un patron d'une compagnie aérienne qui disait vraisemblablement la dernière goutte de pétrole du monde sera brûlée dans un avion. Parce que la technologie, pour l'instant, encore qu'on réfléchit à faire d'autres types de carburants. Pierre Wels, la mondialisation donc atteint tous les pays. Mais alors, on va revenir à la France et en particulier à la manière manière dont les territoires ont réagi. Vous parliez tout à l'heure des Trente Glorieuses. Il y a eu, c'est à peu près au milieu des Trente Glorieuses, en 1963, qu'a été créée la DATAR, qui s'occupait de l'aménagement du territoire, dont l'objectif était un petit peu d'éviter que tout se concentre à Paris et de répartir sur les territoires. C'était un peu un jeu à somme nulle, comme vous le dites, c'est-à-dire que ce qu'on créait ailleurs, on le prenait quelque part. Et puis, petit à petit, est apparue une autre forme de développement. Les régions, les départements, les villes se sont dit, mais on va se développer. Et il y a eu un nouveau modèle qui était le développement local. Mais vous dites aussi que le développement local, maintenant, ne peut plus tout à fait marcher. Alors, qu'est-ce que c'était et pourquoi ça ne peut plus marcher ?
Alors, c'est une question assez complexe. La France des Trente Glorieuses, c'était une économie qui était quand même encore relativement fermée sur elle-même. Il y avait des échanges extérieurs, mais on pouvait parler encore d'un système productif français. Si on prend l'automobile, vous aviez des constructeurs français, des sous-traitants français sur le territoire français. C'était un système national, des économies nationales à ce moment-là avaient véritablement un sens, en sens national, du sens du territoire. L'essentiel des activités, c'était sur le territoire français. Et bien sûr, dans ce cadre-là, l'État joue un rôle très important de répartition des ressources. Et on avait effectivement l'idée que, on était dans un jeu à somme nulle, comme vous venez de le dire. À partir du milieu des années 80, la donne a beaucoup changé, notamment par le fait de l'internationalisation des entreprises. Les grandes entreprises françaises du CAC 40, les grands leaders, nos leaders industriels, etc., ont commencé à s'internationaliser vigoureusement. C'est-à-dire, en fait, aujourd'hui, ils investissent pratiquement plus qu'en dehors de France. Alors, on peut discuter de savoir si c'est bien ou pas. Moi, je pense que c'est une condition de la survie. Elles ne peuvent pas survivre autrement. Et si elles ne le faisaient pas, les activités auraient aussi périclité en France. Donc, d'une certaine façon, on n'a pas eu le choix. Le capital des entreprises aussi s'est fortement internationalisé, puisque on a été beaucoup chercher, faute d'avoir les ressources chez nous, par exemple les fonds de pension anglo-saxons, etc., ont pris une très grande place dans le capital de nos entreprises. Donc il y a eu ce mouvement d'internationalisation très fort, et les territoires ont découvert qu'on n'était plus dans ce jeu simplement national, et qu'on était maintenant dans un jeu international, et que dans ce jeu international, on ne pouvait plus attendre les choses, on pouvait plus simplement attendre que l'État s'occupe de vous. Et donc, il fallait un peu se prendre en main, et d'une certaine façon, c'est comme ça qu'est né ce modèle du développement local. Il consiste à dire, le problème n'est pas de redistribuer, de partager les richesses, c'est de les créer, et les territoires sont des bons lieux pour ça. Et d'ailleurs, chacun territoire doit trouver les éléments qui le différencient des autres pour attirer les capitaux, pour développer des innovations. Je pense qu'on est encore assez largement dans ce modèle-là. Mais alors pourquoi, qui est un modèle, si vous voulez, qui est à la fois, certains disent endogène, voilà, on part en bottom-up, on part de la base, et puis en même temps concurrentiel, il ne faut pas oublier ça, c'est-à-dire qu'au fond, Lyon aujourd'hui se sent concurrent d'autres villes européennes, voire françaises, ce qui n'était pas du tout le cas il y a encore une vingtaine, une trentaine d'années. Je crois que ce qui est nouveau par rapport à ça, c'est que on a franchi une nouvelle étape dans l'internationalisation, qui est que justement on a aujourd'hui cette fragmentation extrêmement grande qui fait que vu du territoire, vu d'un point donné, il y a une énorme incertitude. Je crois que ça, vous avez utilisé le mot tout à l'heure, ça je crois que c'est vraiment une donnée nouvelle. Aujourd'hui, vous pouvez avoir, et d'ailleurs on a des exemples, une entreprise en bonne santé à tel endroit, mais pour une raison X ou Y, elle est rachetée dans un réseau international, et puis la nouvelle direction décide de, pas forcément de délocaliser au sens où on dit d'habitude pour aller chercher de la main-d'œuvre moins chère, mais de réorganiser le système industriel à l'échelle mondiale, etc. Et donc, pour des raisons qui peuvent être parfaitement légitimes, on dit finalement ce site-là, il n'est pas très bien situé sur le plan logistique, on va le fermer parce qu'on en a un autre. Voilà. Et ça n'épargne plus personne, si vous voulez. On a connu des processus de restructuration sectorielle très fort. Le charbon, la sidérurgie, la crise du textile, etc. Chaque fois, c'était des secteurs et ça touchait des régions. Aujourd'hui, quand on regarde la carte des points chauds où il y a des crises industrielles, des crises d'entreprise, c'est un peu partout. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, on est dans un système qui est dont l'échelle de fonctionnement s'est tellement élargie que, vu du point de vue local, des choses peuvent apparaître qu'on n'est jamais à l'abri, quoi. Voilà, on n'est jamais à l'abri. Et ce sont des crises très locales, c'est-à-dire vous pouvez avoir dans telle agglomération une entreprise, voilà, ou un petit secteur, un bout de secteur qui, lui, va avoir des difficultés, alors qu'à côté, il n'y aura pas de difficultés. Donc ça devient très, très difficile, vous voyez, d'avoir une vision un peu d'ensemble de ça. Et donc, par rapport à ça, la dynamique du développement local, elle n'est peut-être pas tout à fait suffisante, quoi. Donc moi, mon idée que je défends, c'est plutôt de dire qu'il faudrait aussi que les territoires locaux deviennent des véritables points d'appui, pas seulement défensifs, mais aussi offensifs dans la mondialisation. Et pour ça aussi, que ce soit des lieux, moi j'appelle ça des laboratoires, où on puisse pas seulement être dans une concurrence un peu sauvage avec le voisin, mais essayer d'inventer des réponses structurelles. J'insiste un peu sur le mot structurel. C'est peut-être abstrait ce que je dis, mais inventer des solutions aux problèmes généraux de la société française. Je crois que l'État, on n'est plus dans un monde où l'État seul peut inventer les solutions à la société française, aux problèmes de la société française. Les territoires doivent inventer leurs propres solutions.
Mais alors, avant d'y revenir et de voir le comment, il y a aussi sur le terrain les acteurs qui sont confrontés à la mondialisation, ce sont les entreprises. Or, les entreprises du CAC 40 dont vous parliez, pour la plupart, elles ont bien entendu des usines ou des installations en province, mais elles sont pour l'essentiel, les sièges sociaux sont à Paris ou à La Défense. Vous pointez, Pierre Vels, le fait que la France manque peut-être d'un tissu. Alors, on sait qu'il y a de très nombreuses petites et moyennes entreprises, mais on n'a pas en France les grosses PME. Et ça, c'est une lacune par rapport à d'autres pays voisins et en particulier par rapport à l'Allemagne.
Oui, alors c'est vrai que le cas de l'Allemagne est particulièrement intéressant parce que, souvenez-vous, il y a 5 ans, on disait l'Allemagne est l'homme malade de l'Europe. L'Europe est plombée par l'Allemagne, qui n'arrive pas avec son industrie. Ils n'ont pas encore compris qu'on était dans la société post-industrielle. Ils sont toujours en train de fabriquer des machines-outils, des choses comme ça. Aujourd'hui, l'Allemagne est quand même un pays qui a une croissance absolument extraordinaire, qui est en train d'accumuler des excédents commerciaux et financiers colossaux, du même ordre que ceux de la Chine. C'est devenu le premier exportateur mondial, l'Allemagne, avant la Chine. Avec une industrie qui tourne à plein, etc. Ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont pas quelques difficultés par-ci, par-là. Et une des caractéristiques qui, effectivement, fait que la situation allemande contraste beaucoup avec celle de la France, c'est que l'Allemagne a un tissu d'entreprises extrêmement régionalisé. Il y a des grandes entreprises, évidemment, mais même ces grandes entreprises ont des bases régionales très fortes. Et BMW est une entreprise, c'est Bayerische Motorwerk, c'est une entreprise bavaroise, et ils sont à Munich, basiquement. Mercedes, Daimler-Benz est dans la région de Stuttgart, Bade-Württemberg. Siemens, c'était une entreprise berlinoise qui est devenue une entreprise bavaroise. Et surtout, ils ont un tissu de grosses PME. D'ailleurs, si vous allez en Allemagne, vous allez voir dans toutes ces petites villes, vous avez des tas d'entreprises qui font 2, 3, 4 000, 5 000 salariés, qui ont un ancrage local très fort, qui sont très appuyés par les banques régionales, par les lenders, etc. Il y a un ministère de ce qu'on appelle, dans tous les lenders, il y a des ministères de ce qu'on appelle en Allemagne le Mittelstand. C'est intraduisible en français, quoi. C'est la classe moyenne des entreprises, si vous voulez. Et ça donne une force considérable. Ça ne veut pas dire que ces entreprises-là ne sont pas non plus menacées. Peuvent pas non plus être menacés par des processus un peu aléatoires comme ceux dont je parlais tout à l'heure. Mais le fait d'avoir cet ancrage territorial et d'avoir une taille suffisante autonome, c'est-à-dire que ces PME ne sont pas simplement les sous-traitantes des grandes, ce qui est un peu le cas des entreprises françaises. Donc ça donne une force considérable à l'industrie allemande. Vous voyez, une fois de plus, la géographie compte.
Mais alors cet exemple allemand, avec effectivement dans la représentation de l'Allemagne, c'est la machine-outil et le triomphe de l'exportation de la machine-outil, mais et donc qui paraît contradictoire avec cette fameuse société post-industrielle. Mais c'est là, Pierre Vels, où vous avez un chapitre extrêmement intéressant dans votre livre, je rappelle le titre « La grande transition », paru aux éditions du Seuil. Vous dites, mais nous ne sommes pas dans une société post-industrielle, nous sommes dans une société hyper-industrielle. Alors, c'est vrai que l'ensemble des services, on vit sur cette classification primaire, secondaire, tertiaire, qui paraît très souvent pas très commode et assez fausse. On dit bien sûr plus de 50% des emplois sont des emplois de service, c'est-à-dire ce sont des emplois qui manipulent des symboles. Mais c'est souvent au service de l'industrie.
Oui, vous savez, je crois qu'en effet, il faut. Ces distinctions sont, bon, elles sont utiles, elles sont historiques, mais il faut beaucoup aujourd'hui les relativiser. D'abord, manipuler les symboles. Je ne sais pas si vous avez été dans une usine récemment. Que font aujourd'hui les ouvriers dans les usines, si ce n'est manipuler les symboles? Moi, je visite des grandes usines. L'essentiel des ouvriers aujourd'hui sont derrière des claviers à manipuler des symboles et à appuyer sur des touches d'ordinateur. L'écrit, l'informatique a fait une percée au moins aussi massive dans les usines que dans les bureaux. Deuxièmement, évidemment, en emploi, l'industrie manufacturière, l'industrie de production des objets, si on veut parler comme ça, a perdu beaucoup, beaucoup d'emplois, mais sa part dans la valeur ajoutée est restée relativement constante. Et beaucoup. Et pourquoi donc il y a cette discordance? Parce que l'industrie reste l'endroit où on fait les gains de productivité les plus importants. Et les gains de productivité, c'est toujours difficile à comprendre, ça, pour chacun d'entre nous, mais les gains de productivité, on a l'impression que c'est néfaste parce que ça va supprimer des emplois à court terme, mais c'est absolument fondamental parce que c'est ça qui enrichit la société à moyen terme. Imaginez qu'on ait fait aucun gain de productivité dans l'agriculture au lendemain des Trente Glorieuses, on ressemblerait à la société d'avant-guerre, qui était quand même pas extrêmement riche. Donc, voilà, alors, l'industrie continue à faire des gains de productivité, et en fait, le sujet important, c'est qu'il faut penser ensemble l'industrie et les services. C'est-à-dire, une grande partie des services travaillent pour l'industrie, une grande partie des services d'ailleurs s'industrialisent. Quand vous regardez les grands réseaux dans les banques, etc., moi je vois pas trop la différence avec les usines, d'une certaine façon. Vous avez les mêmes distinctions entre le front office qui sont proches du client et puis les machines qui tournent dans les back office, comme on dit, etc. Donc tout ça, en fait, est très imbriqué. Et le point important, c'est que la compétitivité aujourd'hui, elle repose de plus en plus sur la capacité à lier justement la production des objets et la production des services. Je reviens à nos Allemands, là, dont on parlait à l'instant. Pourquoi les Allemands, ça marche aussi bien? Parce qu'ils ne vendent pas des machines-outils. Ils vendent des machines-outils spécifiques, sophistiquées, avec les services qui vont avec. Et c'est ça, comprenez? Ils peuvent le faire, alors que le concurrent qui va, lui, se contenter de copier l'objet industriel, il saura pas faire. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'ils vendent? Ils vendent un savoir-faire industriel et un savoir-faire de service qui lui a une base historique qui ne peut pas se reconstituer comme ça en claquant des doigts. Au fond, il y a deux types de biens et de services. Il y a des choses qu'on peut dire qui sont packagées, qui sont sous cellophane. Vous voyez, vous achetez quoi, un logiciel, par exemple. Voilà. Ça, c'est une des logiques de la mondialisation, c'est que tout soit en package. Et alors là, c'est extraordinairement dangereux. Donc là, c'est la logique vraiment de l'industrie sans le service. C'est extraordinairement dangereux parce que là, ça met tout le monde en concurrence tout de suite. Si vous arrivez à construire une imbrication entre du service, de l'objet industriel, de la technologie de pointe, etc., là, vous avez des choses qui sont plus délocalisables parce que là, vous avez un ancrage territorial. Et une de mes thèses dans le livre, que je développe pas beaucoup dans ce livre, mais peut-être je le ferai dans un livre ultérieur, c'est de dire il y a des enjeux de ce type considérables du côté de ce que j'appelle, moi, l'économie anthropocentrée, l'économie centrée sur l'homme, les besoins humains fondamentaux, la santé, l'éducation, la vie dans les villes. Si je prends ces trois exemples-là, il y aurait aussi le divertissement. Pourquoi ? Quand on regarde la première révolution industrielle, la deuxième révolution industrielle, on voit que la transformation des modes de vie a été au cœur de ça. Une grande partie des biens de la révolution industrielle du XXe siècle, c'était pour faire fonctionner les villes autrement. Les voitures, les tours, les ascenseurs, les réseaux, les trains, c'est pour faire fonctionner la société industrielle. Ça, c'est pas tellement délocalisable dans la mesure où c'est lié à du service. Si vous enlevez le service, ça devient délocalisable. Hein. Vous le mettez en paquet, vous le vendez au reste du monde. Je pense qu'aujourd'hui, on devrait réfléchir dans nos pays à faire, faire des progrès quantitatifs, des innovations, mais je pense qu'on va y venir. Moi, je vois les germes de ça, du même ordre dans le domaine de la santé, dans le domaine des villes. Prenons la santé. On peut dire on fabrique des prothèses médicales, on fabrique des appareils médicaux, etc. On n'est pas très bien placé en France là-dessus. On avait un potentiel, mais on l'a un peu laissé partir. Voilà, ça c'est en soi c'est assez c'est risqué parce que les Chinois sauront faire, les Indiens, tout le monde saura faire très vite. Par contre, si on dit on met en place un nouveau système, de nouveaux systèmes, on développe vraiment, on considère que la santé, c'est normal qu'on mette 10, pourquoi pas 20% de notre PIB dans la santé, qu'on arrête de raisonner en comptabilité de la sécurité sociale, qui n'est quand même pas le sujet. C'est un sujet, mais ce n'est pas le sujet. Qu'on considère que le bien-être des gens avec la prévention, etc., et pas seulement le curatif, c'est fondamental pour une société moderne, développée et juste.
Et ils sont prêts à payer.
Et les gens sont prêts à payer, et on trouvera les ressources pour cela, parce qu'elles vont s'alimenter, à ce moment-là, on pourrait inventer des systèmes couplant des biens et des services. Vous voyez que le service, là, il s'introduit tout de suite. Des biens et des services qui, alors là, seront très, très difficilement délocalisables. Et vous voyez aussi pourquoi le territoire, là, joue un rôle. Parce que si on met en place des services de santé et on a d'énormes progrès à faire, ne fût-ce que dans la prévention, sur une base moderne, eh bien, vous voyez qu'on ne peut pas le faire. On le fera quand même largement sur une base territoriale. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne pourra pas non plus aller chercher un dentiste à faire du tourisme médical pour se faire faire une prothèse dentaire à Budapest ou aller se faire refaire le visage au Maroc ou au Brésil, comme ça se fait déjà aujourd'hui. Mais vous voyez, il y a un champ d'avenir là formidable et ce n'est pas du post-industriel, c'est de l'hyper-industriel ou du néo-industriel.
Ce qui est très intéressant, c'est qu'à une époque, on s'inquiète beaucoup du déficit extérieur massif où beaucoup de pessimisme s'exprime en France. Vous donnez quand même, vous dites tout n'est pas acquis, mais vous donnez des raisons d'espérer. Alors il faut s'attaquer maintenant, Pierre Veltz, à tout ça, ça se fait sur le territoire et on va revenir à quel territoire. Et dans votre livre, vous manifestez quasiment comme révolutionnaire, vous parlez d'une rupture. Et de quelle rupture s'agit-il ? C'est d'une rupture dans la gestion de nos collectivités, de la ville à la région, parce que vous soulignez que ce n'est pas tant l'entassement. On sait en France, d'ailleurs, on a parlé, le rapport Attali a parlé de la suppression du département qui a suscité beaucoup de réactions, alors que le département, finalement, n'est qu'un distributeur de fonds sociaux. Vous plaidez pour une hiérarchisation, c'est-à-dire qu'il y ait certaines collectivités qui aient une autorité sur les autres.
Oui, alors je pense que ce sujet de l'architecture institutionnelle, de la ce qu'on appelle maintenant dans le milieu un peu le millefeuille, hein, tous ces niveaux empilés, la commune, les intercommunalités, personne ne sait, enfin la plupart des Français savent pas qu'ils vivent dans des intercommunalités parce qu'on leur a pas dit, mais aujourd'hui pratiquement toute la France est couverte de structures intercommunales, le département, les régions. Donc tout ça fait un paysage extrêmement compliqué, complexe. Et en général, la discussion est focalisée sur comment rationaliser ça, hein, comment réduire les coûts, comment... Bon. Mais le rapport Attali, par exemple, il n'y a qu'à supprimer les départements. Bon, je ne suis pas sûr que ça changerait quoi que ce soit. Moi, je pense qu'il faut sortir de cet aspect purement institutionnel de la discussion. Le but n'est pas de rationaliser en soi une machine. D'ailleurs, la plupart, tous les autres pays développés ont des systèmes aussi extrêmement complexes. Hein. On pense toujours qu'à l'étranger, c'est simple. En réalité, c'est à peu près aussi compliqué que chez nous. Le problème est de savoir pourquoi faire. Hein, pourquoi faire. Et donc, moi, je défends la thèse que j'appelle une régionalisation de rupture. C'est une thèse un peu optimiste, pour ne pas dire un peu utopiste, hein, parce que je mesure qu'on est loin de cette situation. Hein. Qui consisterait à dire, eh bien, justement, dans la gestion de cette transition compliquée dans laquelle on est, qui est à la fois la mondialisation, la rupture technologique, la nécessité d'inventer ces nouvelles façons de lier des biens, des services, de construire des systèmes de santé, des systèmes d'éducation novateurs, etc., eh bien, on voit très bien que l'État central n'est pas capable de porter ça à lui tout seul. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'a pas de tâche à accomplir, ni que l'Europe ne soit pas aussi un échelon. Je parle peu de l'Europe dans mon livre, mais c'est, on va me le reprocher, c'est en partie volontaire, mais je suis très européen hein, quand même. Hein. Mais bon, on ne peut pas parler de tout. Et on voit bien qu'il y a un certain nombre de ces choses qui ne peuvent s'inventer qu'au niveau local. Mais pas simplement, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur le développement local, c'est pas simplement moi à Lyon je suis meilleur que vous à Toulouse. Hein. C'est à Lyon, en Rhône-Alpes, c'est un bon lieu pour réfléchir à des choses vraiment novatrices et qui transforment structurellement, qui renforcent structurellement les territoires dans la mondialisation, dans la révolution technique, etc. Mais pour ça, il faut sortir du système tel qu'il est aujourd'hui, pas tellement en nombre de niveaux, mais vous savez qu'il y a une chose très particulière dans le système institutionnel français, c'est ce qu'on appelle la clause de compétence générale. Hein, ça veut dire qu'en fait, chaque niveau, hein, toutes les collectivités locales sont autonomes. Hein, elles sont pas, aucune n'a de tutelle sur une autre. Le département n'a pas de tutelle sur les communes, les régions n'ont pas de tutelle sur les départements, et même l'État n'a pas véritablement de tutelle sur les régions. C'est liberté et égalité, et pas toujours fraternité d'ailleurs, parce qu'évidemment ça donne lieu à des conflits permanents, mais surtout ça donne lieu à de la confusion, parce que chacun, tout le monde est légitime, et constitutionnellement légitime, hein, à s'occuper de tout. Et donc, vous voyez toujours sur ces panneaux, hein, surtout chaque fois qu'il y a des nouveaux dans les rues, là où les régions, enfin les collectivités locales, vous voyez, c'est systématiquement du cofinancement. Tout le monde veut être tout. Donc après, il faut 25 personnes pour couper les rubans, etc. Bon, ça a créé de l'entropie, des coûts de transaction, ça a beaucoup de défauts. Ça a surtout le défaut qu'au fond, personne n'est véritablement... c'est un système, au fond, moi je dis, on est un système, contrairement à ce qu'on dit, on est un pays aujourd'hui très décentralisé, mais avec des pouvoirs locaux très faibles. Et donc c'est ça la situation où on est. Alors, quel pouvoir faut-il renforcer ? Ah, je fais partie des modernistes, je ne suis pas le seul à penser ça, qui depuis longtemps disent, à l'évidence, il faut renforcer le pouvoir des agglomérations, des grandes agglomérations, et le pouvoir des régions. C'est quand même ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut supprimer les départements, c'est autre chose. Départements, comme vous l'avez dit, c'est un peu aujourd'hui des grands centres de services. On distribue du RMI, on distribue, voilà. Est-ce qu'on a d'ailleurs, au-delà de distribuer du RMI, est-ce qu'on est capable d'accompagner les chômeurs ? Ça, c'est une autre question, hein, malheureusement. Donc voilà, et donc moi je pense que la région, renforcer vraiment la région, ce serait une bonne chose en lui donnant les moyens d'être autre chose que ce qu'elle est, c'est-à-dire finalement un lieu où on est qui est quand même, les régions françaises sont des naines politiques et financières, non seulement à côté des Länder allemands ou des communautés autonomes espagnoles, là c'est des pays fédéraux, enfin ou quasi fédéraux dans le cas de l'Espagne, mais même par rapport aux régions italiennes, et elles n'ont, par exemple, il était question de dire les régions doivent être chefs de file en matière économique, c'était soft, hein, vous voyez, c'était pas très engageant, mais même ça a été refusé. Donc, à mon avis, tant qu'on sortira pas de cette confusion, ce sera difficile de mettre en œuvre des politiques structurées et structurelles au niveau local. Mais j'ai conscience de la difficulté de la tâche. Hein.
Oui, avec toute l'histoire et le poids de l'État en France, mais c'est là où on verra si la volonté de réforme permet peut-être pas en une seule fois, mais d'avancer. Pour conclure, Pierre Vels, je vais revenir sur un thème dont vous parlez dans votre livre, qu'on a peu évoqué là par oral, qui est celui d'une certaine forme d'équité dans ces territoires. Bon, je ne parle pas de l'inégalité d'ailleurs entre les territoires, parce que vous pensez d'ailleurs que cette liberté donnée ne va pas accroître les inégalités. Mais je pensais plutôt à... On parle beaucoup de la fracture dans cette mondialisation entre ceux qui vivent justement dans ce monde hyper mondialisé, qui prennent tous les jours les avions qui font le tour de la planète, et puis ceux qui, dans des provinces reculées, vivent difficilement. Mais finalement, les uns ont besoin des autres. On a l'impression quand on en parle, cette fracture, que ce sont deux mondes qui s'ignorent. Mais chaque monde a besoin de l'autre.
vous soulevez une série de questions très, très, très importantes. La première chose, c'est que les inégalités... Alors, quand on parle d'inégalités, il faut savoir de quoi on parle. Hein. Mettons les inégalités de revenus moyens ou de revenus par ménage, etc. Entre les régions, elles se sont beaucoup atténuées. Hein. C'est très, très frappant. La France est aujourd'hui globalement un pays nettement plus homogène. Il n'y a pas de région où on est beaucoup plus pauvre que dans d'autres, etc. C'était le cas encore dans les Trente Glorieuses. Hein. Je me rappelle quand les entreprises justement quittaient la région parisienne pour aller en Normandie, c'était aussi parce que les salaires en Normandie, le salaire de l'ouvrière dans l'usine tellurisée, là, était 30-40% moins cher que le même salaire à Paris. Aujourd'hui, c'est plus ça. On peut même dire qu'on vit peut-être mieux en province parce que le coût de la vie est moins élevé. Voilà. Donc il y a une certaine homogénéisation à cette échelle-là. En revanche, on a vu apparaître à échelle plus limitée, en particulier dans les villes, mais pas seulement dans les villes, un peu partout sur le territoire, des contrastes locaux beaucoup plus forts. Les inégalités, ce sont, pour résumer, moins d'inégalités interrégionales, beaucoup plus d'inégalités au sein des villes. Divergence là des trajectoires, qui au fond exprime ce que vous dites, c'est-à-dire, au fond, divergence entre des individus, hein, avec des choses qu'on ne mesure pas forcément par les budgets, les revenus, ou même le patrimoine, qui est que... Il y a un rapport, je dirais, au monde, un rapport à la mobilité, un rapport à ces fameuses opportunités que la mondialisation donne, qui est extraordinairement différencié et clivant, quoi, entre ce que les uns appellent les élites cinétiques et puis les gens qui sont, eux, un peu assignés à résidence, qui vous avez beaucoup de gens dans région parisienne, qui sont, enfin, dans les banlieues, qui viennent très, très rarement, pour ainsi dire, jamais à Paris. Donc il y a ce contraste, mais c'est un contraste qui est très local. Hein. On ne peut pas dire c'est plus le contraste entre les Parisiens qui vivaient dans un espace ouvert et puis les bouseux là qui étaient censés être dans leur campagne. C'est plus du tout ça. Vous avez ce même contraste, vous allez le trouver dans les territoires ruraux. Et vous avez des gens qui sont très mobiles et d'autres qui ne sont pas. Alors est-ce que la question que vous posez, c'est est-ce qu'il y a de la solidarité là-dedans? Naturel, je dirais, hein, ben c'est pas si sûr. C'est-à-dire, moi, c'est une de mes grandes interrogations, c'est de dire, au fond, on a eu un monde, pardon d'être peut-être un peu pédant, mais en termes de durkheimien, hein, on a eu un monde où la solidarité était mécanique, on vit tous ensemble, donc on est solidaire parce qu'on est dans le même village, etc. Hein, ce que Durkheim appelle la solidarité organique, c'est-à-dire au fond, je suis solidaire de mon médecin, de mon boucher, etc., parce que la division du travail fait que ce qu'il fait est utile pour moi, etc. Voilà. Mais quand même, on avait ces liens. Aujourd'hui, dans le même espace, dans la même ville, dans le même quartier, vous pouvez avoir des gens, il n'y a plus de solidarité mécanique et pas forcément de la solidarité organique, parce qu'en fait, les réseaux de la division du travail, c'est tellement étendu à l'échelle mondiale que ces liens ont tendance à disparaître. Et pour moi, la grande question, c'est... Alors, je vais la résumer de manière extrêmement schématique et limitative. C'est est-ce que les riches ont encore besoin des pauvres, hein? Je dirais objectivement. Hein? Bon, dans la société industrielle, première manière, oui. Hein? Les villes riches avaient besoin, pour produire, des faubourgs ouvriers parce qu'il fallait bien des gens qui travaillent. Puis il y avait les domestiques pour faire tourner les familles et les ménages, et les domestiques ne pouvaient pas non plus habiter à l'autre bout de la planète. Et puis ce n'était pas à l'époque encore où on pouvait importer en masse des bonnes Philippines. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, dans le monde, ce monde hyper-industriel, finalement on n'a plus tellement besoin de gens peu qualifiés, ça c'est quand même une grande nouveauté. On a besoin de gens finalement peu qualifiés, entre guillemets, pour les services à la personne, c'est une piste, mais les services à la personne, c'est pas peu qualifié. C'est extraordinairement qualifié et difficile et complexe. C'est une économie de la confiance de confier son bébé ou son grand-père à quelqu'un. Et donc, à la fois, c'est bien ça, si vous voulez, le problème, c'est qu'on a bien vu que on avait un capitalisme inégalitaire, mais relativement inclusif. C'est-à-dire qu'au fond, il y avait... Les riches avaient besoin des pauvres, quoi, hein, et réciproquement. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a une partie de la population, y compris dans nos villes, dont on, tout simplement, finalement, c'est extrêmement violent de le dire comme ça, mais on a l'impression que la société pourrait se passer d'eux. Hein, et ça, c'est vrai au niveau mondial, c'est-à-dire un certain nombre de périphéries comme ça, qui étaient des ressources indispensables pour que les centres prospèrent, sont devenues des charges.
On terminera sur cette, mais sous une forme interrogative, sur cette question, parce que le temps passe très vite. Pierre Vell, je rappelle le titre de votre livre auquel les auditeurs pourront se référer, « La grande transition, la France dans le monde qui vient » aux éditions du Seuil. Merci beaucoup.
Merci à vous.